Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Il y a beaucoup de Congolais qui élèvent du bétail, mais qui ont parfois bien du mal à accéder aux aliments pour bétail. Et pourtant, une bonne alimentation permet d'avoir des bêtes qui sont bien en chair et cela contribue à la bonne santé des animaux de la ferme. Donc, avec notre invité, on va découvrir comment fabriquer les aliments pour bétail. Vous êtes fermier ou vous vous intéressez simplement à l'élevage du bétail. N'hésitez pas, appelez-nous au 081-890-63-94. Docteur Albert Kasoko, vous êtes médecin vétérinaire et spécialiste en élevage traditionnel. C'est facile de fabriquer des aliments pour bétail.
Oui, c'est vraiment très facile de fabriquer les aliments pour quelqu'un qui a la volonté d'élever les bêtes ou le bétail qui se nourrissent hors sol. Puisqu'il y a une autre catégorie du bétail qui se nourrissent au sol. Donc, cette catégorie regroupe généralement les ruminants. Donc, ce sont des animaux qui peuvent se nourrir au pâturage, par exemple, avec le fourrage ou bien les herbes du pâturage.
On peut citer quelques ruminants, il y a des chèvres.
Oui, des chèvres, des moutons, de bovins, et ainsi de suite.
Oui, bah, c'est ça, des ruminants, oui.
Oui, une autre catégorie du bétail qui se nourrissent hors sol, ce sont les porcs, ce sont les volailles, ce sont, ainsi de suite. Donc, les animaux de basse-cour. Et pour cette dernière catégorie, il faudrait recourir aux matières premières qui sont utilisées comme éléments de base pour la fabrication de l'aliment pour bétail. Et lesquelles matières premières, nous allons les citer, nous avons du maïs, nous avons du soja, nous avons du riz, nous avons du blé, ainsi de suite, le sorgho, le millet, ainsi de suite. Alors, ces aliments constituent dans un premier temps les aliments d'encombrement. Donc, dans la composition de l'aliment pour bétail, ces aliments d'encombrement vont prendre environ 60 à 70%. Tandis que l'autre pourcentage qui reste peut se répartir au niveau de concentrés, au niveau des oligo-éléments et au niveau des sels minéraux.
Et quand vous parlez du maïs, c'est du maïs que même les êtres humains mangent. C'est ces maïs-là qu'il faut acheter, bien les déchets du maïs. Mais c'est ceux les maïs que nous...
Non, c'est le même maïs les humains consomment aussi.
Ah, d'accord.
Voilà pourquoi à ce niveau-là, on appelle ces animaux des concurrents de l'homme.
Ah, d'accord. Ouais. Donc vous achetez du maïs, du soja, vous avez parlé du blé, et également du sorgho. Après avoir acheté le maïs, vous en faites quoi? Prenons le cas du maïs, vous en faites quoi?
Il faut le concasser, il faut le moudre. Mais pas moudre jusqu'à transformer le maïs en véritable farine, puisque il faudrait que le maïs se présente sous forme de petits sons pour être bien représenté dans l'aliment.
Donc vous achetez le maïs, c'est pareil pour le soja, on va également moudre ça.
Oui, présentement, puisque beaucoup de gens ont difficile à accéder à l'achat de maïs, comme il coûte extrêmement cher, et ils utilisent automatiquement les sons de blé, qui sont chaque fois disponibles.
Alors, on retrouve facilement le blé. Hein,
le son de blé.
Tout à fait, qu'on va également moudre. Et puis, quand vous dites il faut moudre, il faut pas moudre ça jusqu'à ce que ça... Il faut que ça devienne comme de la poudre, non?
Non. Et puis, ça dépend aussi de l'âge des bêtes qui sont nourries.
Oui.
Si ce sont des poussins, par exemple, des poussins d'un jour jusqu'à 2-3 semaines, en tout cas, les sons doivent être très fins. Les sons, la farine doit être un peu fine. Tandis que si ce sont des poulets de 1 mois jusqu'à 1 mois et demi, on peut facilement avoir des sons qui sont un peu gros. Donc, c'est pratiquement presque comme du maïs un peu concassé. Alors.
Oui, après avoir moulu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va garder ça dans.
Non, il faut mélanger avec les concentrés dans des proportions bien identifiées, dans des proportions bien indiquées.
Et quand vous parlez du concentré, il faut aider les gens à comprendre. Il faut mélanger c'est quoi les concentrés?
Les concentrés sont constitués de vitamines, de protéines et puis de sels minéraux.
Ah, c'est ça, où on trouve ces concentrés-là? Où on peut bien les acheter?
Les concentrés sont retrouvés au niveau de pharmacies vétérinaires.
Ah, d'accord. Il faut les trouver voilà. Dans les pharmacies vétérinaires.
Les pharmacies vétérinaires.
Vous avez dit comme le maïs coûte un peu cher de nos jours, bien souvent les éleveurs recourent au sang de blé.
Oui.
Qui vont moudre, hein. Alors quand il s'agit, par exemple, de bêtes jaunes, il faut moudre ça vraiment que ça devienne très très fin.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, allez vous mélanger avec les concentrés qu'on trouve dans
proportions.
Et les mélanges, c'est fait comment?
Donc, c'est pour les aliments d'encombrement, il faut prendre 60 à 70%. Tandis que les 30% qui restent, il faut les répartir à raison de 10 à 15% pour les concentrés et puis 5% pour les sels minéraux. Et puis, il faut ajouter aussi les sels de cuisine.
Ah, d'accord.
Le chlorure de sodium.
Mais est-ce qu'il faut absolument, avoir tous ces renseignements auprès d'un vétérinaire ou bien c'est marqué sur, est-ce que les concentrés c'est bien conditionné? On sait voir, sur le paquet des indications où on dit comment il faut, faire, le mélange?
Oui, je pense bien pour un éleveur qui est bien informé,
oui.
Il ne peut pas s'hasarder ou s'aventurer à commencer à poser des actes ou faire une activité dont il ignore les tenants et les aboutissants.
Oui.
Il doit avoir un conseiller technique à ses côtés. Au besoin, si il n'est pas capable d'arriver à la hauteur de cette tâche, il doit se procurer un conseiller technique qui est le vétérinaire ou bien un agronome.
Alors,
un technicien.
Alors vous avez fini de faire les mélanges et après on fait quoi? On donne directement aux bêtes?
Oui, vous donnez aux bêtes, mais il faut que les bêtes, il faudrait qu'il y ait des infrastructures d'accueil, il faudrait qu'il y ait
tout à fait. Des endroits appropriés.
Oui.
Alors prenons le cas par exemple des porcs. On fait comment?
Oui, pour les porcs, puisque les porcs sont élevés dans une porcherie.
Oui.
Alors dans la porcherie est constituée de boxes, donc de loges. Et dans la loge où se trouve le porc qu'on élève, cette loge doit contenir les mangeoires et puis les abreuvoirs pour ce porc. Et c'est dans les mangeoires qu'on vient verser maintenant les aliments qu'on a
les
fabriqués.
Aliments, exactement.
Pour les laisser à la disposition du porc qui va à chaque fois prendre. Et quand il a besoin de prendre de l'eau,
il va juste
prendre de l'eau dans l'abreuvoir.
Oui. Et pour les vaches?
Les vaches, ils sont des ruminants.
Oui, tout à fait.
Ils sont au sol, au pâturage.
Au pâturage,
mais
d'accord.
N'empêche, dans des élevages intensifs, par exemple un élevage laitier, on peut aussi nourrir la vache à l'étable, c'est-à-dire on lui amène, par exemple, la drèche de brasserie. On peut lui déposer la drèche de brasserie dans une mangeoire à l'étable. Ça, c'est dans le cas de l'élevage intensif. Mais la plupart des temps, ici chez nous, comme nous avons beaucoup de superficie de terre arable, la RDC, par exemple, c'est un pays naturellement béni. Et la superficie de terre arable, c'est plus ou moins 80 millions d'hectares. Et cette superficie ne va pas permettre aux gens qui veulent s'aventurer dans l'élevage de bovins, par exemple, à le faire manger à l'étable. Mais il va chercher une portion de terre qu'il va transformer en pâturage, améliorer ce pâturage pour pouvoir élever là-dessus.
Voilà, docteur Albert Kassoko, nous avons déjà un auditeur en ligne, Steve Wacho, qui nous appelle des Kikwit, nous rappelons également à des personnes qui nous suivent, qui sont intéressées par rapport à ces sujets, comment fabriquer les aliments pour bétail. Donc aussi, bienvenue à ce numéro du magazine Okapi Service. Et si vous venez de vous joindre à nous, n'hésitez pas à appeler au 081-890-63-94. Steve Wacho est à Kikwit. Bonjour Steve.
Bonjour Radio Okapi.
Oui, on vous écoute Steve.
Oui, j'ai deux petites questions à poser à mon invité. La première est celle de savoir si l'apport de protéines des animaux, cas de la farine de sang, était-il conseillé dans l'alimentation du bétail ou de la volaille? Et deuxièmement, c'est l'invité en tant que vétérinaire, j'aimerais savoir lorsqu'un porc en divagation se met à s'attaquer à la volaille, au chevreau, est-ce que C'est pour combler un besoin de protéines ou c'est juste la sauvagerie? Merci bien.
Merci Steve Wacho depuis Kikuit. Allez-y, puisque vous demandez okay, réponse.
Merci Monsieur Steve Wacho depuis Kikuit pour vos deux petites questions. La première, si
il parle de l'apport de protéines animales, oui.
Oui, depuis le problème de Il y a eu une situation qui a fait que dans l'alimentation du bétail, on ne peut pas utiliser la farine de sang.
Donc c'est déconseillé.
C'est déconseillé, oui.
Et qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce qu'on conseille d'utiliser?
Il faut utiliser la farine de poisson, par exemple.
Voilà.
C'est beaucoup mieux.
Voilà. Et dit un porc en divagation qui s'attaque à la volaille, qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Et cela est dû au fait qu'il y avait le problème des dioxines qui a fait qu'on interdise l'utilisation de farine de sang dans l'alimentation du bétail. Pour le porc en divagation qui attaque le volaille ou bien qui attaque les autres bêtes, c'est peut-être le signe de pica. Il faut alors bien équilibrer la ration mise à la disposition de ce porc pour permettre au porc d'être bien nourri convenablement pour qu'il ne manifeste pas une certaine carence alimentaire.
Et bien équilibré, qu'est-ce qu'il faut donner à ce porc pour cet équilibre alimentaire?
Il faut lui donner l'aliment qui est bien rationné. Il y a des aliments bien rationnés, prêts à être utilisés pour l'alimentation du porc.
On trouve ça dans... Où on trouve ça, ces aliments bien?
Chez Midema, par exemple, à Kingabwa, Midema vend un aliment complet, déjà bien équilibré au départ.
Voilà, Jacques Ndaya, on dit merci à Steve Wacho qui a appelé les Kikuit, et là c'est Jacques Ndaya qui est à Calémie. Bonjour Jacques.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Jacques, quelle est votre question par rapport à ce thème, comment fabriquer les aliments pour bétail?
Oui, merci beaucoup. D'abord, cette tranche au capitaine Ruiz qui est très, très importante. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Et des petites préoccupations. Là, il a parlé longuement à propos des deux. J'ai une petite préoccupation qui m'efface d'abord une petite nuance se trouvant entre un pâturage et un fourrage.
Un pâturage et quoi d'autre?
Un pâturage et un fourrage, la différence.
Oui, le pâturage, c'est une portion de... Oui.
Alors, vous avez une deuxième question, allez-y.
Oui, la deuxième question, c'est... Là, il a parlé juste des cultures céréalières, disons, les maïs, les millet, les sorgho et autres, pour la transformation des nourritures sur les bétails. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres plantes qui peuvent intervenir dans l'alimentation, dans la transformation des nourritures des plantes, à travers des nourritures, disons, des animaux, en laissant d'abord les céréales.
Voilà, merci Jacques Ndaya depuis Calémie, Dr Albert Kassoukou.
Merci Monsieur Jacques Ndaya depuis Calémie, merci pour vos deux questions. La première demande la différence entre fourrage et pâturage. Et je vous dirais que le pâturage c'est une portion de terre qui héberge les différentes herbes qui sont communément appelées fourrages. Et ces herbes, il y a deux catégories d'herbes, il y a les graminées et puis il y a les légumineuses. Tandis que le fourrage n'est qu'une seule herbe. Une seule herbe qui se trouve sur le pâturage. Et cette herbe peut être une graminée, tout comme elle peut être une légumineuse. Voilà un peu la différence.
Alors, vous avez suivi sa deuxième question.
La deuxième question parle de...
Des plantes.
En dehors des céréales.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut... Oui, bien sûr. En dehors de maïs, soja, riz. Mais on peut aussi utiliser les sorgho. On peut utiliser le millet. On peut utiliser même d'autres fourrages. Il y a des fourrages qui sont utilisés dans l'alimentation. Une fois séché, ça constitue ce qu'on appelle le foin. Et ce foin peut être utilisé dans l'alimentation du bétail.
Et pour justement par rapport à cette question, vous parlez du foin. Le foin, comment il dit
le foin, c'est un fourrage séché. C'est un fourrage séché. C'est comme le passeparum. Vous coupez, vous séchez, et après vous allez donner ça pendant la période de disette, pendant la période de sécheresse.
Ah, d'accord.
Oui, donc voilà. On peut le conserver.
Voilà. Oui. Alors, là, on s'en va à Kananga. C'est Clément Ndaye qui est en ligne. Clément Ndaye, bonjour.
Bonjour, Marcel. Bonjour aussi à monsieur le docteur.
Bonjour.
Il est vrai que le sujet du bétail, c'est un sujet qui doit de plus en plus nous intéresser. Mais voilà, par rapport à son introduction, il a dit que l'élevage ne doit pas être un conquérant de son éleveur. Mais du fait que, selon ce qu'il vient d'énumérer, qu'il a fallu acheter le maïs, voilà que ici, par exemple, le maïs coûte cher. Il a fallu aussi ajouter du soja, alors les choses coûtent toujours cher. Est-ce que normalement, il n'y a que cet aliment qui peut normalement améliorer les poids du bétail aussi, et améliorer la reproduction du bétail, ou y a-t-il une autre alimentation que nous devons normalement adapter? Par exemple, selon ma comparaison, moi je suis un agronome, mais il y a des fois que j'ai parlé certains cours du caractère vétérinaire qui m'ont appris normalement ce que je puisse, puisque normalement je suis en train d'élever les porcs, et d'une part je me donne aussi à l'élevage des caprins, autrement dit l'élevage des chèvres. J'ai toujours adapté, que ce soit les porcs, soit les chèvres, à une végétation, autrement dit la verdure ici. Alors quand je compare normalement ce qui donne à leur bétail, par exemple du bidja que vous appelez à Kinshasa, ou les autres, Nshima, ou Bougari, ainsi de suite, je vois que non, il y a vraiment une différence. Moi qui adapte normalement à la verdure, je vois que non, mes bétails sont vraiment... ont une bonne santé, la reproduction est meilleure, ils résistent même à certaines maladies. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Que l'invité fasse vraiment une synthèse de ce que je dis là. Est-ce qu'il a fallu adapter ce qu'il vient d'énumérer, ou bien il nous faut adapter à la verdure? Puisque c'est ça, ce que nous voulons, c'est la qualité, pas normalement la quantité. Mais la deuxième question que je voudrais juste demander à notre invité, il y a certaines difficultés que moi je suis en train de palper. En ce qui concerne vraiment l'élevage des lapins, qu'est-ce qu'il fallait normalement faire pour que je puisse casser ou bien m'adapter à toutes les maladies possibles qui peuvent attaquer les lapins? Merci vraiment, voilà mes petites questions. Bonne journée et merci aussi à l'invité.
Merci. Non,
vraiment, c'est petite pas élastique. Merci.
Merci Clément Ndaye depuis Kananga. Docteur Albert Kasoko.
Oui, merci Clément Ndaye depuis Kananga pour vos préoccupations. Il faut savoir dissocier les choses. C'est-à-dire, il y a un élevage qui peut être effectué dans un milieu urbain, dans un milieu semi-urbain, où la disponibilité en portion de terre est impossible. Bon, si vous avez la facilité d'avoir une portion de terre sur laquelle vous faites, par exemple, la culture fourragère, ou bien vous avez le fourrage pour nourrir votre porc, tant mieux. Il n'est pas dit que si on a du fourrage disponible pour nourrir le porc, il faut nécessairement abandonner ce fourrage pour recourir aux céréales. Non. Mais il y a moyen, si vous avez du fourrage, vous pouvez aussi utiliser ce fourrage. Mais vous devez savoir que le porc, c'est un animal qui bouffe une bonne quantité d'aliments pour qu'il soit satisfait. Et si ce fourrage n'est pas en quantité convenable, allez-y comprendre le problème auquel vous allez... vous exposer. Maintenant, pour ce qui est de lapin, pour le lapin, je pense la plus grande maladie qui dérange beaucoup le lapin, c'est la coccidiose. Et la coccidiose, si dans les conditions dans lesquelles vous élevez vos lapins, si vous évitez l'humidité dans le clapier là où vous élevez vos lapins, même le fourrage que vous donnez au lapin, et puis les déjections du lapin doivent tomber par terre, puisque vous connaissez comment on peut fabriquer un clapier. Le clapier doit être fabriqué de façon que quand le lapin fait les matières fécales, quand le lapin urine, et les matières fécales et les urines doivent tomber en bas. Il ne faudrait pas que ça reste stagnante sur le plancher du clapier, de façon que ça crée l'humidité pouvant faciliter l'éclosion de Emeria, qui sont des parasites qui peuvent provoquer la coccidiose chez le lapin.
Voilà, ça serait intéressant de revenir peut-être prochainement avec vous, hein, docteur Albert Kassouko, sur l'élevage de lapins. Hein. Comme ça, on va vraiment s'étendre en long et en large par rapport à cela. Comment réussir ou bien comment fabriquer les aliments pour bétail? Nous en parlons avec docteur Albert Kassouko, qui est médecin vétérinaire et spécialiste en élevage traditionnel. Si vous voulez appeler, le numéro, c'est les 081-890-63-94.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse quinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Kapi met le Congo à la une.
Voilà, on poursuit avec notre invité, Dr Albert Kassouko, par rapport à ces sujets sur comment fabriquer les aliments pour bétail. Un auditeur en ligne, Jean Djenga, nous appelle de Kindu. Bonjour Jean Djenga.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, j'avais posé à l'invité une question, puisque moi souvent j'ai fait l'élevage des canards. J'avais savoir... Les canes et tout, puisque je le vois au courant des deux semaines, ça meurt beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter à ce que ces canes et tout ne puissent pas beaucoup mourir? Et ma deuxième question, sur les maladies des canes et tout, qu'est-ce que je vais faire pour les traiter? Même quand ils sont grands, ça meurt beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je vais utiliser? Quels sont les médicaments ou qu'est-ce que je dois faire?
Voilà, Georges Djenga, puisque vous avez posé des questions par rapport aux maladies, l'invité va répondre. Mais dites-nous d'abord par rapport au sujet du jour, comment vous faites pour nourrir vos canards?
Bon, mes canards, je les nourris souvent avec des légumes seulement, puisque comme chez nous ici, les nourritures coûtent cher. Après, si moi aussi, je n'ai pas assez de possibilités, je les fais nourrir que des légumes seulement. Je fais des maniocs.
Et ces canards, ça va, ça se passe bien, ils se reproduisent sans problème, et puis ils sont en bonne santé?
Ça se reproduit bien. Et après, surtout, les canards, c'est un cas... Les canards mettent bas, c'est beaucoup. Les canards, toi, ça fait deux semaines, trois semaines, ça meurt beaucoup avec la vertige. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, merci à Jean Djenga d'avoir appelé de Kindu. Docteur Albert Kassouko.
Bon, merci Jean Djenga de Kindu. Pour ce qui est de l'élevage des canards, je pense que vous avez une bonne intention d'élever les canards. Vous les élevez, vous les nourrissez, mais d'une façon presque... non convenu par la norme alimentaire, puisque les canards, c'est une volaille qui peut facilement prendre le même aliment comme la volaille, comme la poule. Alors, pour ce qui est de la pathologie au niveau de l'élevage du canard, la pathologie n'est pas tellement compliquée. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de cas de maladies dans l'élevage de canards. Mais pour le caneton, les canetons, donc les petits de canards, qui crèvent une ou deux semaines après l'éclosion, je pense qu'il y a le problème de disponibiliser de l'eau à la portée de canetons. Il faut que l'eau soit disponible à côté des canetons, puisque ce sont des animaux qui aiment trop l'eau. D'abord, ils aiment des flaques d'eau pour jouer dedans, et après, ils prennent aussi à chaque instant de l'eau. Alors, maintenant, reste à savoir, l'aliment que vous mettez à la disposition de vos canards, de vos canetons, et ces aliments sont, ce sont des aliments sains, est-ce que ce sont des aliments contaminés? Je crois, la question reste posée à ce niveau-là. Et c'est peut-être à vous de voir, dans le milieu où vous vivez, les vétérinaires qui sont là, s'ils peuvent jeter un coup d'œil sur votre élevage, dans votre exploitation, et voir dans quelle mesure ils peuvent vous donner des conseils pratiques pour arriver à mieux faire par rapport à ce que vous êtes en train de faire actuellement.
Et là, vous demandez à Jean Djenga d'aller consulter un vétérinaire, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, des gens hésitent à vous consulter, ils répètent tout le temps que vous avez aussi des honoraires qui coûtent les yeux de la tête.
En fait, je pense il y a un confrère qui est inspecteur provincial sur place à Kindu.
Oui.
Et si Jean Djenga peut facilement passer au service vétérinaire, voir l'inspecteur provincial, qui peut mettre un agent à sa disposition pouvant essayer un peu de suivre, de faire des visites sanitaires de son exploitation et voir dans quelle mesure on peut l'aider en lui prodiguant des conseils techniques.
Est-ce que les fermiers, de manière générale, ils vous consultent deux fois par rapport à leurs activités?
Oui, beaucoup de fermiers nous consultent et beaucoup de fermiers font leurs activités sur base des conseils que nous leur prodiguons.
Voilà. Donc, merci. C'est intéressant ça, parce qu'on nous dit souvent des gens n'aiment pas consulter les médecins vétérinaires. Alors c'est bien de dire que c'est pas le cas. Il y a des fermiers qui vous consultent. Hein. Et souvent c'est ceux qui ont beaucoup de bétail, hein, qui ont du gros bétail.
Oui.
Mais ceux qui ont peut-être qui font l'élevage au niveau de la maison, tout et tout, ça c'est pas vraiment évident.
Bon, au niveau de la maison, de temps en temps, il y a des gens qui demandent des conseils. Comment démarrer, comment faut-il faire pour démarrer l'élevage de telle ou telle spéculation, par exemple.
Ouais.
Et on leur dit, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous parviendrez à faire quelque chose de palpable.
Bah, c'est toujours bon de chercher conseil chez les spécialistes. Et alors, il y a deux autres auditeurs en ligne. J'espère qu'on va finir avec ces deux-là. J'espère, Tati Kélarisation. J'espère qu'on va finir avec ces deux-là. Nassor Moussa qui nous appelle de Kindou. Et Thomas qui a Matadi. Nassor Moussa, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Nassor.
Oui, j'ai juste une question à demander à notre invité. Pour ce qui concerne comment avoir un bon élevage, s'il y a moyen de nous illustrer certains mécanismes pour avoir un bon élevage. Parce que ici chez nous à Kindou, il y a toujours des crises qui arrivent pour avoir les bons élevages. C'est ça juste mon information concernant le sujet.
Merci Nassor Moussa depuis Kindou et puis à Matadi, c'est Thomas qui est en ligne. Bonjour Thomas.
Bonjour.
On vous écoute Thomas.
Oui, ma préoccupation est de savoir, moi je pratique l'élevage des chèvres. Alors en dehors de l'herbe sauvage dont ils nourrissent, quel est l'aliment favorable aux chèvres? Voilà ma préoccupation et où pourrais-je les trouver?
Voilà, merci Thomas, depuis Matadi et Stanislas Lima est en Bougimaï. Bonjour Stanislas.
Oh, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à vous aussi et bonjour à votre invité, monsieur le docteur.
Bonjour.
Alors, on vous écoute Stanislas, quelle est votre question?
Ouais, alors je vous écoute, je dis bonjour à vous et à notre invité.
Bon, vous êtes bel et bien en ligne, c'est plutôt vous qui êtes à un endroit un peu plus bruyant, donc on attend qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous si vous voulez bien vous déplacer un petit moment, mais pour nous on vous écoute bien. Allez, quelle est votre question Stanislas?
Ouais, ma question, je m'adresse tout droit au docteur, on fait plus l'élevage de la maison, alors je remarquais que non, il n'y a pas les avancements assez énormes. Si docteur pouvait m'aider avec certains conseils pour que cet élevage aille un peu de l'avant.
Et qu'est-ce que vous élevez, Stanislas, chez vous à la maison?
Ouais, j'élève les lapins. Alors, par les lapins, j'ai commencé avec des lapins, donc des lapins. Maintenant, jusqu'à là, j'en ai que je suis sur trois, après trois ans. Bon, je ne sais pas, ils peuvent donner naissance, mais... leurs enfants ne fait que mourir. Alors, je demande un peu au docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie?
Merci Stanislas Yema depuis Mbujimaï. Alors, cette question des Nassor Moussa qui a appelé des Kindou, qui voulait savoir de manière générale, que faire pour réussir un bon élevage?
Merci beaucoup Nassor Moussa des Kindou. L'élevage peut être mené à bien si on respecte les conditions d'alimentation et on respecte les conditions de protection zoosanitaire, c'est-à-dire toute éventuelle maladie, toute éventuelle pathologie doit être soignée convenablement. Rien que les deux aspects là peuvent suffire pour permettre à un éleveur de mener à bon port son élevage.
Et Thomas qui a appelé de Matadi qui élève les chèvres. Qui a un élevage de chèvres qui a parlé en dehors de l'herbe sauvage.
Oui, Thomas élève les chèvres à Matadi. Je vois Matadi, c'est une région presque pierreuse. Bien sûr qu'il y a quand même du fourrage par-ci, par-là. Et la chèvre, c'est un ruminant. C'est une bête qui se nourrit facilement de l'herbe. Et l'herbe se trouve au pâturage. Et si on a un pâturage bien amélioré, bien entretenu, je pense que la chèvre peut bien être alimentée sans qu'il y ait beaucoup de difficultés. Et si le pâturage détient, par exemple, le panicum maximum, le pâturage détient les chloris, les cetaria, les penicetum, les tripsacum, tous ces fourrages peuvent facilement permettre à la chèvre de se nourrir. Et quand bien même si la chèvre met bas, elle peut aussi produire facilement du lait pour nourrir des chevreaux.
Alors, qu'est-ce que vous dites au dernier auditeur, lui, qui a des problèmes, Stanislas Yema, qui a appelé de Mbujimaï, qui a des problèmes avec l'élevage de lapins et qui n'arrête pas de mourir tout
oui,
le temps.
Oui, je pense chez Monsieur Stanislas Yema de Mbujimaï. Monsieur Stanislas doit avoir des problèmes de consanguinité dans son élevage. Il arrive à croiser les animaux de même sang, donc des animaux consanguins. Le mâle comme la femelle sont des consanguins. Et si vous croisez les animaux consanguins, il y a le problème, les produits qui vont découler de ce croisement sont des produits non viables. Vous allez voir que les lapros, donc les petits de lapin, vont chaque fois crever dès qu'il y a une petite attaque, dès qu'il y a une petite infestation, une petite infection, eh bien, ça emporte les lapros.
Et qu'est-ce qu'il doit faire maintenant?
Il doit essayer de différer les choses, c'est-à-dire, comme il a démarré avec deux lapines, deux femelles, il fallait qu'il aille chercher un mâle. Un lapin mâle ailleurs, donc qui n'a pas le même sang que les deux lapines. Ils croisent et maintenant
comment lui le saura? Il faut chercher un vétérinaire ou bien c'est facile de savoir que ce sont de lapins qui n'ont pas le même sang?
Non, mais c'est comme si lui, en amenant les deux, peut-être il a amené les deux, un mâle et une femelle, qui sont consanguins, qui sont ici d'une même famille. À ce moment-là, La reproduction peut avoir lieu, mais qui va donner un résultat à des produits non viables.
Voilà, Stanislas a suivi votre conseil, j'espère qu'il le fera. Au cas où le problème persiste, il faut aller trouver un vétérinaire.
Oui.
D'accord. Merci beaucoup Albert Kasoko. Nous rappelons que vous êtes médecin vétérinaire et spécialiste en élevage traditionnel. Avec vous, on a parlé de comment fabriquer les aliments pour bétail. On espère en tout cas vous retrouver, comme je le dis, très prochainement. Et surtout pour vous avez commencé à donner des conseils par rapport à l'élevage de lapins.
De lapins.
On
oui.
verra comment y revenir à long et en large. On espère que vous serez disponible pour cela.
Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup. À très prochainement.
Merci.